Hosanna, mais il nous sauvera. Jésus règne à jamais dans nos cœurs, règne d'amour, de paix et de louange. Jésus règne à jamais dans nos cœurs, règne d'amour, de paix et de louange. Acclamons-le Seigneur, acclamons-le Seigneur. Il est digne de louange, l'ennemi il nous sauvera. Jésus règne à jamais dans nos cœurs.
Danse, danse de joie.
Commande Israël.
Danse, danse de joie. Danse, danse de joie.
Danse de joie, ô Seigneur, toute la terre. Saute,
saute de joie. Saute, saute de joie. Saute, saute de joie. Saute de joie, ô Seigneur, toute la terre. Tape des mains,
Alléluia.
Tape des mains, tape des mains, tape des mains, oh Seigneur, toute la terre.
Alléluia pour le roi, Alléluia pour le roi. Chante pour lui, danse pour lui, Alléluia pour le roi. Crie de joie,
amen.
Crie de joie, crie de joie, crie de joie, ô Seigneur, toute la terre. Danse, danse de joie, danse, danse de joie,
danse,
danse de joie. Danse de joie, ô Seigneur, toute la terre. Saute, saute de joie.
Amen.
Saute, saute de joie.
Comme les mots dans une étape. Saute. Allez, Hélène. Amen.
Saute de joie, ô Seigneur, toute la terre. Alléluia pour le roi, Alléluia pour le roi, Alléluia pour le roi. Chante pour lui, danse pour lui, Alléluia pour le roi.
Loué soit le Seigneur. Digne est le Seigneur d'être adoré, exalté, glorifié. N'est-ce pas vrai? Alléluia. Il nous a aussi laissé sa parole afin que nous sachions comment le servir, comment l'aimer, comment le glorifier. La parole de Dieu est la nourriture même du chrétien. Sans cette parole, nous ne savons pas comment servir Dieu, comment l'aimer. Nous ne savons pas distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux, de ce qui vient des ténèbres, de ce qui vient de la lumière, de ce qui vient du diable et de ce qui vient de Dieu. Il n'y a que la Bible qui nous révèle ces choses, n'est-ce pas vrai? Et si quelqu'un met sa confiance dans sa propre intelligence, il sera trompé. Nous devons mettre notre confiance dans cette sainte parole de Dieu. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais qu'on voit un sujet, ou si vous voulez, quelques pensées importantes pour tout enfant de Dieu. Nous vivons dans des temps difficiles. Nous vivons dans des temps où la confusion règne. Confusion dans le domaine politique, économique, dans le domaine moral, mais surtout dans le domaine religieux. Nous vivons un temps de confusion, n'est-ce pas vrai? Avec toutes ces religions, toutes ces sectes qui pullulent autour de nous. Comment savoir où est la vérité? Comment savoir ce qui vient de Dieu, ce qui vient des hommes ou ce qui vient du diable? Il n'y a qu'un livre qui nous dit cela, la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu, mes amis. Et j'aimerais, ce matin, vous exhorter et nous exhorter tous à discerner toujours plus ce qui vient de Dieu ou ce qui vient du diable. Le titre de mon message sera « Comment reconnaître une secte ?» C'est un sujet important. Si on vous posait la question maintenant, comment reconnaître une secte ? On dit beaucoup de choses là-dessus. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de vrais chrétiens sont considérés comme une secte. Tout simplement parce qu'on est la minorité. Par exemple, ceux qui font partie des églises officielles, qui font partie de la majorité, considèrent toutes les petites églises, les petits groupes comme une secte. Ça, c'est valable dans beaucoup de pays. Est-ce là un test? Est-ce là un critère valable pour dire « parce qu'on est les plus nombreux, nous sommes dans la vérité ». Et parce que vous êtes deux, trois pèlerins, vous êtes dans l'erreur. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui pensent cela. Voyez-vous, nous avons le nombre de notre côté. Tu as peut-être le nombre de ton côté, mais est-ce que tu as la vérité de ton côté? Vous savez que les premiers chrétiens, quand nous lisons les actes des apôtres, les évangiles, est-ce qu'ils étaient la majorité, les premiers chrétiens, au départ? Pas du tout. Ils étaient la minorité. Et il est dit même des premiers chrétiens dans les actes des apôtres, à un moment donné, il est dit que cette secte rencontre partout de l'opposition. Les premiers chrétiens étaient considérés comme une secte. Jésus avec ses apôtres. Mais par rapport à quoi? Par rapport à la religion qui existait en ce temps-là. Il y avait une religion officielle. Et cette religion officielle ne voulait pas de Jésus et de son enseignement et de l'enseignement des apôtres. Et comme ils rejetaient cet enseignement-là, parce qu'ils se croyaient les plus forts, ils disaient, voyez-vous, nous avons la multitude avec nous. Vous êtes une secte. Et ainsi, c'était la religion officielle de ce temps-là qui dénigrait le Seigneur et l'enseignement des apôtres. Voyez-vous, tout est relatif. Tout est relatif. Ce n'est pas parce qu'on fait partie d'un grand nombre ou d'un petit nombre. Voyez, il ne faut pas aussi tomber dans l'autre extrême. Ce n'est pas parce qu'on fait partie d'un petit nombre maintenant. Ah, vous avez dit, ah bon, d'accord. Alors, tous ceux qui sont avec la majorité, alors cela, c'est fou. Alors, nous, on a un petit troupeau, on est dans la vérité. Pas du tout. Ce n'est ni le grand nombre, ni le petit nombre qui détermine si quelqu'un est dans la vérité. Comment reconnaître une secte, une fausse doctrine? C'est très important. Capital. Et pour cela, les chrétiens, les vrais chrétiens nés de nouveau, qui ont fait une expérience personnelle avec Jésus-Christ, qui ont l'assurance de leur salut, qui ont leur vie transformée par la grâce de Dieu, et qui vivent pour la gloire du Seigneur en se soumettant à sa parole, les chrétiens, ces chrétiens doivent savoir ce qu'ils croient. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas les vérités fondamentales de la parole de Dieu. Il y a des vérités fondamentales. Et lorsque nous connaissons ces vérités, je vais vous en donner 5 ce matin. 5 vérités fondamentales. Si vous les connaissez, vous saurez tout de suite si celui qui vous parle ou le groupe que vous entendez est une secte ou pas. Même si ce groupe est considéré comme une église. Si ça passe le test de ces 5 vérités fondamentales, alors d'accord. Mais si ça ne passe pas le test, vous avez intérêt à mettre de côté ce que Dieu met de côté. 5 vérités fondamentales. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui tombent dans le panneau maintenant. Beaucoup de chrétiens. Pourquoi? Ah, tout le monde vient un peu avec sa nouvelle révélation, ses nouvelles visions, tout un tas de nouvelles choses. Et les chrétiens, ils sont là. Beaucoup tombent dans le panneau. Beaucoup. L'ignorance est une arme terrible entre les mains de l'ennemi. L'ignorance. Alors vous allez me dire, comment reconnaître une secte ou une fausse doctrine? C'est capital. Cela peut sauver votre vie si vous ne le savez pas. Et tout chrétien doit pouvoir tout de suite discerner. Vous savez, on ne peut pas tout savoir sur les sectes, vous êtes d'accord avec moi? On ne peut pas tout savoir. Il y a des milliers de sectes. Il y a des milliers de fausses doctrines. Alors on ne peut pas tout étudier, tout savoir à fond. C'est impossible. Mais quand vous savez l'essentiel du message de l'Évangile, alors vous pouvez tout de suite discerner ce qui ne va pas, sans tout savoir sur ces faux enseignements. Vous savez comment on forme certains docteurs, en tout cas j'avais lu ça, aux États-Unis ça se passait comme ça, comment certains docteurs discernent si un cœur est en bonne santé ou s'il bat normalement, comment est-ce qu'ils font pour le savoir? Pour tout de suite discerner si ce cœur est malade ou pas. Nous, on pourrait penser, eh bien, il faudrait qu'il écoute tous les cœurs malades pour voir s'il est vraiment malade. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Comment un médecin peut tout de suite voir si ce cœur est malade ou pas? C'est parce que, avant de diagnostiquer un cœur malade ou mauvais, ce médecin, on lui a enseigné et il a pris le temps de voir comment bat normalement un cœur sain. Il connaît le battement d'un cœur sain. Et quand il entend un cœur qui est malsain ou malade, ah, tout de suite. Tout de suite, il sait voir ce cœur est malade. Pourquoi? Parce qu'il sait comment un cœur sain et normal bat. S'il ne sait pas comment un cœur sain et en bonne santé bat, est-ce qu'il va savoir comment le cœur du malade bat ou s'il est en bonne santé? Il ne le saura pas du tout. Comment donc voir si un cœur malade est vraiment malade, ou si un cœur est en bonne santé? C'est quand on sait comment un vrai cœur bat. Et c'est ainsi que les médecins sont habitués. Pendant des mois et des mois, ils s'habituent à entendre comment bat un cœur normalement. Si bien qu'au premier contact avec un cœur malade... Ah, tout de suite, ça, il y a quelque chose qui ne va pas là. Là aussi, quelque chose qui ne va pas là. Pourquoi? Parce qu'il a dans sa tête le battement d'un cœur sain. Alléluia. Comment reconnaître les sectes et les fausses doctrines? En allant discuter avec eux, voilà, et puis on s'en sort plus. Certains, ils discutent tellement que dans le courant de la discussion, ils se font avoir. Et ils tombent dans le panneau. Ah, oh, ils sont pleins d'amour, ces gens. Oh, ils sont gentils. Oh, vous savez, ils m'aident. C'est bien souvent, les sectes vous ont comme ça. Ah, ils vous bombardent d'amour. Oh, jamais j'ai été aimé comme ça. Jamais. On vient me visiter, on s'occupe de mes enfants. C'est extraordinaire, on vous bombarde d'amour. Et vous tombez dans le panneau. L'amour est important, mais il y a quelque chose de plus important, c'est la vérité. Amen. Comment savoir si un cœur est malade? Il faut savoir comment un véritable cœur bat. Comment savoir si une doctrine est fausse? C'est en connaissant la vraie doctrine. Amen. Comment savoir ce qui est faux? En sachant ce qui est vrai. Et il y a 5 vérités fondamentales que tout chrétien devrait savoir pour discerner une secte, une fausse doctrine. 5 vérités. Ne pas se laisser avoir par autre chose. L'amour. Et même les miracles. Vous savez, même les miracles, il y en a qui se font avoir par les miracles. Dieu, nous croyons aux miracles. La Bible parle des miracles. Mais le miracle n'est jamais un test. Que tout ce qu'une personne dit vient de Dieu. Vous savez, c'est Jésus lui-même qui a dit un jour: vous chassez des démons en mon nom, vous guérissez des malades en mon nom, mais il leur dit: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Voyez-vous, le miracle est divin, est biblique. Mais le miracle ne doit jamais nous faire fermer les yeux et pour dire: ah, oh, il y a des miracles. Ça vient certainement de Dieu. Non. C'est pas le test, c'est pas le critère final. Le critère final, c'est ce que cette personne enseigne. C'est la doctrine de cette personne. Avez-vous remarqué du temps de Moïse? Il y avait les magiciens du temps de Moïse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des miracles aussi. Ils ont fait des miracles, les magiciens. Il y avait donc une puissance qui était là. Ils jetaient un bâton par terre et le bâton devenait un serpent. Qui a fait cela? Moïse l'a fait. Mais les magiciens aussi l'ont fait. Alors on aurait pu dire: ah, vous voyez bien. Alors, vous voyez, c'est quelqu'un qui ne sait rien du tout. Et dit: vous voyez bien, le magicien, il a fait ce miracle, il est de Dieu. Non, mes amis. Jésus a fait des miracles. Les apôtres ont fait des miracles. Il y a aussi des miracles mensongers. Il y a aussi le diable qui vient tromper. C'est pourquoi nous ne devons pas être aveuglés par les miracles. Tout doit être contrôlé par la parole de Dieu. Amen. Si quelqu'un fait des miracles et dont la doctrine n'est pas biblique, ces miracles ne viennent pas de Dieu. C'est important. Vital. Alors, vous allez me dire: mais maintenant, comment les reconnaître? Alors voilà. Cinq points importants. Premièrement, voilà, comment donc reconnaître une secte? Premièrement, l'autorité finale concernant les vérités spirituelles repose sur quelque chose d'autre que la Bible. Voilà. L'autorité, je répète, premièrement, comment reconnaître une secte? Dans une secte ou dans une fausse doctrine, l'autorité finale concernant les vérités spirituelles repose sur quelque chose d'autre que la Bible. Voyez-vous, autrement dit, ils croient en la Bible, mais à côté de la Bible, ils croient en autre chose. Ils ont leur petit livre à eux. C'est pas vrai? Leur petit secret à eux. Leur petit commentaire à eux. Leur tradition à eux. La Bible n'est pas la seule autorité finale en matière de foi. Quand vous voyez quelqu'un qui commence à douter de la Bible ou à vous dire que la Bible n'est pas suffisante en matière de foi, vous avez devant vous quelqu'un qui prêche une fausse doctrine. La parole de Dieu est la révélation finale que Dieu a donnée aux hommes pour que nous soyons sauvés et pour que nous connaissions la vérité. Amen. C'est important. La vérité est dans la Bible seule. Toute autre nouvelle révélation, nouvelle doctrine qui n'est pas enseignée par le Seigneur, par ses apôtres, et qui n'est pas confirmée par la parole de Dieu, ne vient pas de Dieu. Vous savez qu'on ne doit rien retrancher et rien ajouter à la parole de Dieu. Amen. C'est Apocalypse, vous connaissez ce passage-là, Apocalypse 22, 18 et 19, voici ce qu'il est dit. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie, de la ville sainte décrit dans ce livre. Que celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. » Avez-vous remarqué ici? Celui qui ajoute quelque chose, on le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose, Dieu le retranchera sa part de l'arbre de vie. Autrement dit, il sera perdu pour toujours. On ne doit rien ajouter et rien retrancher. Il y en a qui ajoutent quelque chose à la Bible, mais il y en a d'autres qui retranchent quelque chose à la Bible. C'est tout aussi dangereux. La Bible est la seule autorité qui nous apporte la vérité. Jésus lui-même a dit, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Amen. La parole de Dieu n'a pas été écrite pour que nous la jugions. La parole de Dieu a été écrite pour qu'elle nous juge. C'est elle qui doit nous juger. Ce n'est pas nous qui devons juger la parole de Dieu. Et vous le remarquez, les sectes, d'une manière générale, vous enseignent toujours quelque chose qui est à côté de la Bible. Ils ont leurs petits commentaires à eux. Si vous ne lisez pas leurs commentaires, vous ne comprenez rien à la Bible, soi-disant. Et d'autres ont des traditions. On dit, oh, mais nous croyons à la Bible. Mais il y a la tradition en plus. La parole de Dieu est la seule révélation qui vient de Dieu pour nous faire connaître la vérité. Toute autre nouvelle doctrine, tradition, ne sont que des pensées humaines. Ne sont que des pensées humaines qui ne viennent pas de Dieu. C'est pourquoi nous devons faire très attention dans ce domaine-là. Seule la Bible, la parole de Dieu, écrite, est la parole de Dieu. Seule la Bible, la parole de Dieu écrite, est la parole de Dieu. Tout autre écrit, révélation ou nouvelle vérité ne sont rien de plus que des paroles d'hommes. Amen. Ça, nous devons bien le réaliser. Absolument, ceci est capital. Alors, premier point important. D'où l'importance, mes amis, de connaître sa Bible. Vous êtes d'accord avec moi? Un chrétien qui ne connaît pas sa Bible. Bien souvent, on entend certaines choses, un chrétien qui ne connaît pas sa Bible tombe fait bien souvent dans le panneau. Bien souvent, vous entendez les gens qui disent, mais certains vous disent, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est la Bible qui dit ça. Un jour, on m'a dit ça quand j'étais à l'armée. Je parlais du Seigneur à quelqu'un, mais il me dit, mais la Bible dit bien que aide-toi, le ciel t'aidera. Ah bon, j'ai dit, où est-ce que, dans quelle version tu as trouvé ça? Montre-moi un peu où c'est écrit dans la Bible. Et j'attends toujours. Ça fait bientôt 30 ans que j'attends le verset. Mais la Bible dit ça. Et il y a beaucoup de gens qui vous disent, mais la Bible dit ça. Mais si vous ne connaissez pas votre Bible, vous tombez dans le panneau. Vous tombez dans le panneau, d'où l'importance d'avoir une foi fondée sur la Bible. Et la Bible est la révélation finale. Dieu n'y ajoute plus rien du tout. Tout ce que nous avons besoin de savoir sur Dieu, sur le diable, sur l'homme, sur le salut, sur l'avenir de l'homme, le jugement éternel, tout est dans la Bible, la révélation de Dieu. Amen. D'où l'importance, mes amis, de bien connaître sa parole. Mais dans les sectes et les fausses doctrines, il y a toujours quelque chose en plus. On veut vous faire croire que vous êtes un petit ignorant, vous ne savez pas grand-chose. Et qu'eux, ils ont eu une nouvelle révélation. Non, mes amis, ce n'est pas conforme à la Bible. Il faut la rejeter systématiquement. Amen. Un point important. D'où l'importance pour le chrétien de connaître sa Bible, de la méditer. Et quand il entend quelque chose, tout de suite, est-ce biblique ? Ah, mais ça m'a fait du bien. Oh, ça me fait du bien. Ça t'a fait du bien ? Est-ce que c'est écrit dans la Bible ? Ah, mais, vous savez, on vit un temps où les gens mettent beaucoup l'expérience, l'accent sur l'expérience. Ah, mais ça m'a fait du bien avec ces gens-là. Je me sens bien. Ah, ça t'a fait du bien ? Mais le diable aussi peut te donner des sentiments. Les gourous, les maradjis et les maradjas. Là-bas, quand vous lisez leurs livres, ces gens-là, ils expérimentent, soi-disant, l'amour, la paix, la joie. Quand vous les voyez, c'est des vrais illuminés. Et qu'est-ce qui détermine leurs actions, leurs convictions? C'est pas « Ah, ça m'a fait du bien ». Alors tout sentiment qui fait du bien, c'est la vérité pour eux. Voyez-vous la séduction? Le diable peut vous donner tout un tas de sentiments. Le critère final n'est jamais l'expérience que vous pouvez faire de quelque chose, les bons sentiments que vous avez, le critère final. C'est pas, il ne faut pas dire, est-ce que ça fait du bien, mais est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est biblique? Que ça te fasse du bien ou pas, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que c'est biblique? Ah, là j'ai de la peine un peu, il faut que je regarde, il faut que je cherche un petit peu. Ah, voilà, donc c'est là un point important. Amen. Les sectes, les fausses doctrines, toujours quelque chose en plus. La parole de Dieu est suffisante. Alléluia. C'est elle qui transforme seulement les vies. Deuxièmement, les sectes prêchent un autre Jésus. 2 Corinthiens 11, 4. Les sectes prêchent un autre Jésus. Vous allez dire, mais comment ça se fait ça? Vous allez voir. 2 Corinthiens 11, 4. Voici ce que dit Paul. « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre... » Qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles ?« Un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez entendu, embrassé, vous le supportez fort bien. » Voyez-vous, les Corinthiens commençaient à accepter un autre Jésus sans qu'ils s'en rendent compte. Et le Jésus que les sectes prêchent, avez-vous remarqué quel est ce Jésus-là? Ils vous diront qu'ils croient en Jésus. Mais avez-vous remarqué quel est ce Jésus qu'ils prêchent? Pour les spirites, Jésus, c'est un très grand spirit. Et ils vous feront des éloges de Jésus, mais c'est un grand spirit. Les gourous, ils vous diront que Jésus, c'est quelqu'un qui a atteint un certain niveau dans la divinité. Ils vous parleront de Jésus comme quelqu'un d'extraordinaire, comme quelqu'un qui est un leader religieux, un chef spirituel. Ils vous parleront, ils vous feront des éloges de Jésus. Mais ce Jésus des sectes n'est pas le Fils de Dieu. La différence est là. Le Jésus des sectes n'est pas le Dieu tout-puissant qui s'est incarné dans un corps comme le nôtre. Le Jésus des sectes n'est pas le Dieu véritable et vrai. Il ne considère pas Jésus comme étant le seul Dieu. Quand vous dites à une secte, à un gars qui prêche une secte et tout, Jésus est Dieu, il est le seul Dieu. Comment ? Va-t'en d'ici avant que je te désosse. Va-t'en d'ici ! Voyez-vous, il ne supporte pas, il croit en Jésus. Homme, spirit, grand chef religieux. Mais le Jésus de la Bible, c'est le Jésus qui est Dieu. Amen. C'est le Jésus que Thomas a eu la révélation lorsqu'il s'est courbé devant lui et il lui a dit, mon Seigneur est mon Dieu. Alléluia. Mais le Jésus des sectes n'est pas le Dieu véritable. C'est un chef, c'est une grande personne, mais ce n'est pas le Dieu incarné. Et tout autre Jésus que celui-ci n'est pas le véritable Jésus. Amen. Et vous savez, il y a quelques passages que je vais lire. L'apôtre Paul avait ses problèmes dans l'église primitive au départ. Il y avait beaucoup de gens qui commençaient à mettre le doute sur la divinité de Jésus. Jésus homme, d'accord. Jésus grand homme, d'accord. Mais Jésus Dieu, jamais. Jésus le seul Dieu, jamais. Jamais. Alors beaucoup, déjà, dès le départ, il y avait de tels problèmes. Dans l'épître aux Colossiens, quand Paul a écrit cette lettre à Colosse, il y avait de grandes difficultés. On commençait à douter de la divinité de Jésus. Et Jésus et Paul voyaient que son œuvre commençait à être littéralement détruite. Il fallait qu'il apporte des vérités capitales concernant Jésus. Que Jésus, on ne peut pas le mettre au même niveau que les autres. Il y en a combien aujourd'hui qui vous disent Jésus, d'accord, mais au même niveau que Bouddha, Confucius, Marie, et je ne sais qui encore, Jésus au même niveau que tout cela. Le Jésus qu'on met au même niveau que tous les autres hommes n'est pas le Jésus de la Bible. Il lui a été donné le nom au-dessus de tous les noms, devant lequel tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le nom de Jésus est le nom au-dessus de tous les noms. Vous ne pouvez pas comparer le nom de Jésus à un autre nom. Si vous le comparez, le Jésus que vous croyez n'est pas le Jésus de la Bible. C'est le Jésus de votre imagination. C'est le Jésus de la religion ou des fausses doctrines. Le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Et c'est le seul nom qui sauve. Il nous a été donné un seul nom que le nom de Jésus, par lequel nous pouvons être sauvés. Et regardez ce qu'il a dit, Paul, quand il a vu qu'on commençait à dénigrer la personne même de Jésus. Dans les Colossiens, il dit ceci, car en lui, donc, en lui, en Jésus, en lui, il est au début, il est dit, il est l'image du Dieu invisible, Colossiens 1,16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Voyez-vous ? Ce n'est pas n'importe qui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Le premier. Afin d'être en tout le premier. Amen. Verset 18 et verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Alléluia. Au chapitre 2 de Colossiens, il dit ceci, verset 2, et il est dit, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation et qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Amen. Dans Christ, il y a tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En Christ seul. Et au verset 4, « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » Voyez-vous, les premiers chrétiens commencent à être séduits. On leur faisait croire que Jésus n'était pas Dieu, qu'il était quelqu'un de grand, qu'on pouvait mettre au même niveau que les autres. Il était un sauveur, mais il n'était pas le sauveur. Il y avait de la vérité dans toutes les religions. Tous les grands hommes de toutes les religions sont aussi valables que Jésus. Voyez-vous l'hérésie? Et il le dit bien, je dis cela afin que personne ne vous séduise par des, ne vous trompe par des discours séduisants. Ensuite, il est dit, au verset, chapitre 2, verset 8, « Prenez donc garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Alléluia! Vous avez tout pleinement en lui. Amen. Tout. Nous n'avons besoin de personne d'autre. En Jésus, nous avons tout. Il est Dieu manifesté en chair. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Gloire au Seigneur. Alors voyez-vous, le Jésus des sectes est un autre Jésus que le Jésus de la Bible. Le Jésus de la Bible est Dieu, manifesté en chair, devant lequel un jour tout homme se courbera. Voilà pourquoi les sectes et les fausses doctrines ne veulent pas de ce Jésus-là. Ils ne veulent pas un jour admettre qu'ils auront à se courber devant ce Jésus et qu'ils auront des comptes à rendre. C'est un Jésus qui dérange, le Jésus Fils de Dieu. Dieu manifesté en chair, c'est un Jésus qui dérange. Et effectivement, c'est un Jésus qui dérange. Nous pouvons l'ignorer sur cette terre, mais un jour nous le retrouverons là-bas. Si nous l'avons accepté comme notre sauveur ici-bas, il ne sera pas notre juge là-haut. Mais si nous ne l'avons pas accepté comme notre sauveur ici-bas, nous le retrouverons comme notre juge. Et ce sera la perdition éternelle. Quand on vous parle de Jésus, il faudra bien vous rendre compte de quel Jésus tu parles. D'un Jésus gourou, spirit, fils de l'homme, chef, leader. Quel Jésus ? Le Jésus des sectes ne reste qu'un homme comme tous les autres, un grand homme peut-être, mais il reste au niveau des hommes. Mais le Jésus de la Bible est le Fils du Dieu vivant. Nous avons tout pleinement Jésus-Christ. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia! Tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés en lui. Nous avons tout pleinement en lui. Gloire au Seigneur! Troisièmement, comment reconnaître les sectes? Tout ce qui est en dehors de la Bible ne vient pas de Dieu. Savoir quel est le Jésus qui prêche. Et troisièmement, les sectes ne font pas de la croix le message central de l'Évangile. Voilà un autre test. Quand vous entendez quelqu'un vous parler, vous remarquez facilement que la croix pour ces gens-là, la croix de Jésus, la mort de Jésus sur la croix, c'est rien du tout. Moon, je pense à Moon maintenant. Hein? Il se prend pour Dieu. Et vous savez ce qu'il dit? Il a dit Jésus a échoué, on l'a crucifié. C'est parce qu'il a échoué son œuvre. Et maintenant, moi, je suis là pour prendre la suite. Il considère la croix de Jésus comme un échec. Et toutes les sectes considèrent la croix de Jésus comme un échec. C'est un échec. La croix. Jésus a échoué. S'il était vraiment Dieu, il ne serait pas mort sur une croix. Voyez-vous, le message de la croix révèle les fausses doctrines. Vous savez, nous pouvons aussi croire au message de la croix, mais en y ajoutant quelque chose. Ça aussi, c'est la secte. Quand on nous fait croire que les souffrances de Jésus ne sont pas suffisantes pour être sauvés, Nous avons besoin de souffrir nous-mêmes aussi pour être sauvés. Ça, c'est l'esprit de secte. Ça, c'est une fausse doctrine. D'où l'importance de bien faire attention. L'apôtre Paul, partout où il allait, s'écriait : la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Rien de moi, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus. Que voulait-il dire en parlant de croix ? C'était le message. Il voulait dire par là que c'est seulement la mort de Jésus sur la croix qui nous sauve de nos péchés, qui nous délivre de l'enfer éternel et de la perdition, de la damnation. Le plus grand message de l'évangile est celui-ci. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3. Christ est mort pour nos péchés. Alléluia. 1 Corinthiens 15, on peut lire les trois premiers versets. Ceci est important. Pour montrer combien le message de la croix était central dans la prédication de Paul. 1 Corinthiens 15, verset 3, voici ce que Paul dit aux Corinthiens. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, si nous ne restons pas fidèles à ce message de la croix, nous pouvons être perdus. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Voyez-vous que nous pouvons croire en vain si nous ne saisissons pas le pourquoi de la mort de Jésus. Et ensuite, verset 3, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. » Selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Voilà l'Évangile. Christ qui est mort pour nos péchés, il a été enseveli et le troisième jour, il est ressuscité des morts. C'est là le message central de l'Évangile, mes amis. C'est le message central. Si on ne prêche pas ce message, on ne prêche pas l'Évangile. On prêche une religion, une secte, tout un tas de choses, mais on ne prêche pas l'Évangile. La plus grande des nouvelles, la plus importante des nouvelles, Christ est mort pour mes péchés. Allez poser une question à un gars d'une secte ou d'une fausse doctrine, mais Christ est mort, péché, est mort pour mes péchés, vous lui dites. Alors je suis sauvé par ça. Comment ? Christ est mort pour tes péchés ? Il dénigre la croix de Jésus. Mais voyons, il faut que tu essayes de te sauver toi-même, voyez-vous, dans toutes les sectes. Les témoins de Jéhovah, je pense à eux par exemple. Si vous ne faites pas partie d'eux, vous êtes perdus, vous êtes d'accord avec moi ? C'est ce qu'ils vous disent. Voyez-vous ? Il faut faire partie d'eux. Jésus, ils en parlent. Jésus, de la mort de Jésus aussi, ils en parlent. Mais pas du tout comme l'apôtre Paul en parle. Ils ajoutent toujours quelque chose. Ils vous disent, venez chez nous. Si vous êtes témoin, vous devenez témoin de Jéhovah, vous serez sauvés. Et si vous ne l'êtes pas, vous serez perdu. Mais combien d'autres religions disent cela aussi ? Combien d'autres religions, en dehors de notre religion, pas de salut ? Vous n'avez pas entendu cela ? En dehors de notre religion, pas de salut ! C'est une hérésie, c'est un mensonge ! En dehors de Jésus-Christ, pas de salut ! Amen ! En dehors de la mort de Jésus sur la croix, il n'y a pas de pardon pour les péchés. C'est là la plus grande des nouvelles. Les sectes, les fausses doctrines, ne mettent pas un accent là-dessus. Posez la question, est-ce que seule la mort de Jésus te sauve ? Comment ? Qu'est-ce que tu racontes là ? Insensé ! Comment la mort de Jésus il y a 2000 ans peut nous sauver maintenant ? Ils ne comprennent rien. Et ils se moquent de vous. Et Paul dit, si vous ne retenez pas ce message tel que je vous l'ai annoncé, vous auriez cru en vain, vous croyez en vain. Que Dieu nous donne de faire attention. Amen. Et nous vivons ces temps-là, mes amis. Des temps sérieux. Et il y en a qui vous diront qu'ils croient en Jésus-Christ. Mais ils le font souffrir pendant 2000 ans encore. Ah oui, ah mais monsieur, moi je crois. Oui, alors là, d'accord. Que Jésus soit mort sur la croix, moi j'y crois. Mais la Bible dit qu'il a souffert une seule fois, Jésus, dans l'Épître aux Hébreux, pour nous pardonner. Il s'est donné une seule fois pour nos péchés. Et il y en a d'autres qui font souffrir Jésus pendant 2000 ans. Il souffre toujours. Si Jésus doit encore souffrir, c'est parce que son œuvre à la croix a été un échec. S'il n'a plus à souffrir maintenant, c'est parce que son œuvre à la croix a été acceptée de Dieu. Amen. C'est parce qu'il a été accepté que maintenant il n'a plus à souffrir. Accepté par le Père. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, ce point important, cette vérité capitale. Gloire au Seigneur. Alors, voilà pourquoi nous devons bien faire attention. Quatrièmement, une quatrième vérité importante maintenant. Les sectes n'enseignent pas le salut par grâce. Regardez, retenez bien cette pensée-là. Les sectes n'enseignent pas le salut par grâce. Toutes les sectes, d'une manière générale, enseignent que nous avons quelque chose à faire pour être sauvés. Toutes, sans exception. Mais le salut par grâce est ignoré, est galvaudé, on n'en veut pas. Mais la Bible dit, Éphésiens 2, 8, « C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient point de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Comment savoir si c'est une secte devant vous? Comment savoir si c'est une fausse doctrine? Posez la question, comment es-tu sauvé? Par la grâce ou par les œuvres? Toutes les sectes vous diront que c'est par les œuvres. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Il faut que tu sois fidèle à notre mouvement. Il faut que tu sois ceci, tu fasses cela. Et alors tu seras sauvé. Et encore. Voyez-vous, il y a toujours l'accent sur « tu dois faire ceci, tu dois faire cela ». La religion dit toujours « fais et tu seras sauvé ». L'évangile dit « crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Alléluia ! Crois en ce qu'il a fait parfaitement. Ce qu'il a fait n'est plus à refaire. Ce qu'il a fait est parfait. Voilà une question à poser à toute personne qui vient avec un message bizarre. Comment es-tu sauvé ? Par grâce ? Ou par la foi, ou par les œuvres. Tout de suite, vous verrez à qui vous avez affaire. Mais vous savez, il y en a toujours qui sont un peu spéciaux. Ils vous diront, moi je suis sauvé par la grâce et par les œuvres. Ah oui, ils vous diront, moi les deux. Alors si c'est par les deux, ce n'est pas par grâce. Si tu dis que c'est par les deux, tu détruis la grâce de Dieu. C'est par grâce que l'on est sauvé. Cela ne vient pas de nous, dit l'apôtre Éphésiens 2, 8, 9. C'est un don de Dieu. Ce n'est point par nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est par la grâce seule. Dieu nous sauve. Non pas parce que nous le méritons, parce que nous avons fait quelque chose. Il nous sauve parce que nous ne pouvons jamais mériter le salut par nos œuvres, par nos prières, par notre religion. Nous ne pouvons pas et nous ne mériterons jamais le salut de Dieu, le pardon de Dieu, parce que nous sommes pécheurs. Nous avons offensé la sainteté de Dieu et nous ne pouvons pas, par nous-mêmes, nous sauver. Et Dieu d'ailleurs ne nous demande pas, parce qu'on n'y arrivera jamais. Mais les sectes vous disent, tu peux te sauver toi-même. Quel insensé! Comme ça, sauvé par grâce, allons. Il faut faire quelque chose. Tout de suite, vous voyez à qui vous avez affaire. Mais vous ne pouvez pas mélanger non plus la grâce et les œuvres. Si c'est par grâce, ce n'est pas par les œuvres. Si c'est par les œuvres, ce n'est pas par grâce. Ce n'est pas possible par la grâce et par les œuvres. Et il y en a des multitudes qui croient cela. Cela ne vient pas de la parole de Dieu, c'est une fausse doctrine. Amen. Et nous allons terminer. Cinquièmement, les sectes. Voyez-vous, encore un autre point important. Les sectes ne dépendent pas du Saint-Esprit. Voilà une vérité importante. Les sectes ne dépendent pas du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il n'y a pas de vie spirituelle dans les sectes. Pas de conviction de péché, pas d'assurance du salut, pas de pardon de ses péchés et pas de compréhension spirituelle.
Personne dans ce monde est né chrétien. Nous devons tous naître de nouveau. Voilà pourquoi les sectes, ceux qui sont dans des sectes ou dans des fausses doctrines, ils ne sont pas nés de nouveau. Et n'étant pas nés de nouveau, ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Et c'est pourquoi, n'ayant pas le Saint-Esprit en eux, ils ne peuvent avoir une vie transformée. C'est pourquoi dans les sectes et dans les religions, dans les fausses doctrines, les gens sont toujours les mêmes, ils ne changent pas. Et comme ils se croient encore les meilleurs, voyez-vous, ils sont pires que les autres, mais ils se croient les meilleurs que les autres. Alors qu'est-ce qui se passe? Ces gens deviennent des hypocrites. Ils font attention à leur apparence. Ils savent qu'intérieurement, ils sont pourris. Mais pour se donner une bonne apparence, ils font tout pour être bien vus des hommes. Et c'est ça, les sectes, les religions, les fausses doctrines vous donnent une apparence. Ah, ils sont bien gentils. Ils vous aiment, soi-disant, ils vous aiment pour vous avoir à eux. Une fois que vous serez tombé dans le panneau, après, vous ne pouvez plus sortir d'eux. C'est fini. Ils vous maudissent même en disant, attention, le jour où tu t'en vas, la malédiction de Dieu est sur toi. Pourquoi une telle attitude? C'est parce que leur cœur n'est pas changé. Il n'y a pas le Saint-Esprit dans les sectes. Il n'y a pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi ils sont les mêmes. Ils ne changent pas. Il n'y a pas de transformation. Même s'ils ont apparemment un beau visage, c'est de l'hypocrisie. Tout est du mensonge. Tout est tromperie. Si on savait ce qui se cache derrière, eh ben on serait déçus. Voilà la secte. Il ne compte pas sur le Saint-Esprit. Et nous, le vrai chrétien, l'Évangile, est né de Dieu, né du Saint-Esprit. Jésus a dit à Nicodème, vous devez naître d'eau et d'esprit. Et quand nous sommes convertis à Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient en nous. Et nous pouvons communier avec Dieu qui est esprit. Et notre vie change. Alléluia. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous donne la force de changer. Être chrétien, ce n'est pas se transformer soi-même. Être chrétien, c'est être transformé par la puissance de Dieu et du Saint-Esprit qui habite en nous. Alléluia. Mais les sectes n'ont pas ça. Les fausses doctrines n'ont pas ça. Ils font tout par eux-mêmes. Est-ce qu'un homme peut se changer lui-même? Est-ce qu'un léopard peut changer sa peau? Personne ne peut le faire. L'homme ne peut se changer lui-même. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia! Avec l'Évangile, il y a une transformation. Le Saint-Esprit en nous nous transforme à l'image de Jésus. Alléluia! C'est pourquoi quelqu'un qui se dit chrétien et qui est toujours le même, c'est une personne qui n'est pas née de nouveau. C'est une personne qui n'est pas régénérée. Une personne vraiment chrétienne qui a accepté Jésus vit une vie nouvelle. Ce n'est pas une nouvelle religion que l'on vit. C'est une vie nouvelle parce que l'Esprit de Dieu est en nous et Dieu nous conduit. Et nous, tout ce que nous avons à faire maintenant, c'est de ressembler à Jésus. Alléluia! Mais nous sommes transformés. Je ne veux pas dire que nous sommes parfaits, mais nous sommes transformés. Il y a quelque chose qui se passe. Nous ne sommes plus les mêmes. Autrefois, nous étions dans les ténèbres, maintenant nous sommes dans la lumière. Il y a quelque chose qui se passe. Autrefois, nous étions esclaves de nos passions. Maintenant, nous sommes libres. Autrefois, nous étions rebelles. Et maintenant, nous sommes obéissants. Autrefois, nous ne vivions que pour nous-mêmes. Maintenant, notre seul désir est de vivre pour Jésus-Christ et d'obéir à sa parole. Amen. Il n'y en a qu'un qui compte, c'est Jésus et sa parole. Les sectes ne comptent pas sur le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ils sont dépourvus de puissance. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Les gourous veulent vous faire croire que le Dieu est en vous, au fond de vous-même. Et par la méditation transcendantale, il faut descendre et chercher Dieu en vous. Quelle illusion, quel mensonge! La Bible nous dit qu'il n'y a que ténèbres en nous. Que ténèbres! Et Dieu vient en nous seulement lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Amen! Alléluia! Merci Seigneur! Alléluia! Et lorsque Christ vient en nous, une nouvelle vie commence. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire à Dieu! Que le Seigneur nous aide à réaliser et à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient du malin. Comment reconnaître une secte, une fausse doctrine? Voilà ces 5 points importants. Ce sont 5 vérités fondamentales que tout chrétien doit connaître. Et lorsque vous entendez quelque chose, vous devez tout de suite passer tout ce que vous entendez au travers de ces 5 cribles. Si vous faites tout de suite ces 5 tests, vous savez tout de suite à qui vous avez affaire. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen.